Et si vous voulez le lien, vous me dites, puis je vous le donne. Et c'est un cantique qui parle tellement de la vraie vie chrétienne. Donc, tout le monde en parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît, dans 2 Pierre. Premier chapitre. 2 Pierre, premier chapitre, versets 3 à 9, lecture de la parole de Dieu. 2 Pierre, premier chapitre, 3 à 9. On va aller jusqu'à 11 pour un bon contexte. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, Seigneur, nous voulons nous reposer sur ta parole, source de notre foi. Et nous voulons ce matin ensemble réfléchir, laisser cette parole pénétrer nos âmes et nos cœurs. Seigneur, c'est un texte tellement solennel et tellement pertinent pour ma vie à moi et la vie de mes frères et mes sœurs. Que tu puisses, par ton esprit, nous faire du bien ce matin, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous diriger ensemble dans une réflexion sous le trône de ta grâce, de ta souveraineté, de ta bonté. Et que tu nous diriges ensemble à réaliser la grandeur de notre Dieu sauveur, Jésus-Christ. Pour ta gloire, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Bien, ce matin, vous savez, j'aimerais partager avec vous 3 points et 7 sous-points. Et j'aimerais qu'on parle ensemble de 3 types d'aveuglement spirituel. Cette semaine, lorsque j'ai été chez Rona, il y avait justement vous avez vu ceux qui ont un peu circulé cette semaine, il y a le levée de fonds pour Mira, hein, qui ramassait de l'argent pour remplacer les yeux de certains malvoyants par un chien bien entraîné pour faire remplacer les yeux. Et je voyais le chien sous la table, puis je me disais, Je regardais le monsieur, puis je me disais à moi-même, « Wow, j'en veux pas de chien de même. J'en veux pas. J'espère, par la grâce de Dieu, que j'aurai jamais besoin d'un chien comme ça. » Puis, tout en jasant tout ça, savez-vous que les malvoyants ne sont pas complètement malvoyants tout le temps? Est-ce que vous avez vu l'annonce à TV? Il y a quelqu'un qui arrive devant quelqu'un qui a une canne blanche, puis il fait des grimaces de même. Vous avez vu celle-là? Non? Et puis, le malvoyant, un coup que le gars est parti, le malvoyant fait les mêmes grimaces. Et il y a beaucoup de préjugés face à cela, puis j'appuie bien ces causes-là. J'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir le texte qu'on vient de voir. C'est un texte très, très dense, et je n'ai pas la prétention de l'éplucher ce matin, dans les quelques minutes que nous avons. La première aveuglement, j'aimerais vous parler, c'est de l'aveuglement face à notre identité, qui nous sommes, face à notre position en Jésus-Christ. Rappelons-nous ensemble ce matin, frères et sœurs, que sa divine puissance nous a donné tout. Et le superlatif est peut-être agaçant, là, parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque de quoi dans nos vies chrétiennes. Vous avez remarqué? À moins que vous êtes dans la mode autosatisfaction, là, puis une trop haute opinion de vous-même, là, vous êtes satisfait. Et malheureusement, moi, j'ai un de ces tempéraments, je ne suis jamais satisfait, puis c'est mon péché. Puis je dois lutter contre ça. Je dois me satisfaire en Christ, le contentement en Christ. Tout ce qui contribue à la vie et la piété. Waouh! Puis il nous donne même le moyen par lequel on y arrive, c'est le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, Dieu notre Sauveur. Et lorsqu'on parle de cet aveuglement qui existe, je l'ai expérimenté moi-même, et c'est pour ça que j'ai pris ces trois aveuglements-là, parce que dans le fond, le bas de la ligne, là, c'est lorsqu'on commence à vivre pour la chair, vivre pour le système de ce monde, On a mis en oubli qui nous sommes. Noblesse oblige. Ça serait le fun de prendre des vacances de chrétien des fois. Vous avez déjà pensé à ça? Puis même, on a l'opportunité de faire ça. En dehors du pays, personne ne nous voit. Puis on se permet certaines libertés qu'on ne se permettra pas au Cap de la Madeleine, vu qu'on est en dehors. Et cet aveuglement, en fin de compte, c'est qu'on oublie que nous avons tout ce qu'il faut à cette vie que nous avons en Jésus-Christ. Cette vie spirituelle et cette vie de piété, de ferveur envers Dieu. En fin de compte, la piété, en fin de compte, D.A. Carson disait que la piété, en fin de compte, on retrouve ça partout dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. C'est quoi la piété? Oui, c'est une ferveur, on regarde dans le dictionnaire, les synonymes. Mais la piété, c'est quoi? Si ce n'est qu'une théologie appliquée dans nos vies chrétiennes, réellement. C'est-à-dire des vérités bibliques qui transforment nos vies, quotidiennement. Et lorsque les vérités bibliques, lorsque les affirmations de la parole de Dieu concernant notre vie et notre piété en Jésus-Christ, lorsqu'on est aveugle de tout cela, on devient myope par rapport à tout cela, c'est qu'on fait fi de qui nous sommes en Jésus-Christ. Cet premier aveuglement est un aveuglement qui nous emmène à la deuxième aveuglement. Et souvent, cet deuxième aveuglement, c'est l'aveuglement face à la providence de Dieu. On voit, celle-ci nous assure de sa part. Quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lorsqu'on ne sait pas qui on est dans le Seigneur, lorsqu'on est aveugle ou myope par rapport à qui nous sommes spirituellement, comment faire pour saisir ces grandes et précieuses promesses que Dieu promet? Impossible. On ne les voit pas. On passe en côté de ces promesses, il y en a 7487 d'après Lockyer, que lui interprète une promesse à sa manière. On pourrait contester le chiffre, mais c'est intéressant de voir que Lockyer, dans All Series, a pris la peine moi je ne l'ai pas fait, de compter toutes les promesses dans la Bible. De Dieu à l'homme, à Israël, l'Église. C'est l'aveuglement face à la providence de Dieu, un Dieu, Hébreux 11.3, qui nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante, le cosmos, toute chose créée, toute chose visible et invisible, Dieu, par sa parole puissante, par sa providence, soutient toute chose. Colossiens 1.17 nous dit que toute chose subsiste en lui. Toute chose a été créée pour lui, Jésus-Christ. Même dans l'histoire de Job, souvenez-vous, Satan a la permission d'aller jusqu'à un certain point avec Job et Dieu met un cercle de protection autour de Job. Il dit à Satan, « Oui, OK, je te permets de le tenter, mais va pas plus loin que cela. » Mais un cercle de protection. La providence de Dieu, c'est Isaïe 46:10 qui dit, « Mes arrêts subsistent, j'exécute toute ma volonté. » Et l'aveuglement sur la providence de Dieu fait des chrétiens troublés, agités et emportés tout vent, toute doctrine, par toutes sortes de circonstances, ne croyant plus aux promesses de Dieu et la providence de Dieu. La providence de Dieu pour faire pleuvoir sur les méchants et les bons, la grâce commune. La providence de Dieu pour bénir son peuple qui lui appartient, qui va un jour présenter comme une épouse sans rides. Cette providence de Dieu et cet aveuglement de la providence de Dieu fait de nous des chrétiens agités. Si on ne prend pas en considération cet attribut extraordinaire d'un Dieu qui est en contrôle, un Dieu qui n'est dépassé par aucune situation de ma vie, c'est pas rassurant ça? On aime imaginer plusieurs choses, n'est-ce pas? On construit des royaumes dans nos têtes. On détruit des royaumes dans nos têtes. Et l'aveuglement face à la providence de Dieu fait en sorte que le peuple de Dieu est inquiet, troublé et agité. Troisième aveuglement, j'aimerais réfléchir avec vous. C'est aveuglement aux implications de la doctrine de la sanctification progressive. 4b nous dit ceci, « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Vous savez, je viens de terminer un travail sur un livre. Et il y a beaucoup de citations de Calvin, Jonathan Edwards et tout ça. Calvin disait ceci. On est une manufacture de bons et de mauvais désirs, de bons et de mauvaises choses. On est des spécialistes à conjuguer le verbe « avoir ». Je veux, je veux, je veux. On est des gens qui facilement s'emportent et trouvent une gratification de la chair à cause de la corruption de ce monde. Et la corruption de ce monde, regardez-la, on les voit partout. Dans les associations, les partis politiques, dans un groupe de personnes qui arrivent pour faire une chose ou un autre. Jonathan Edwards disait, « Un homme agit toujours, je le cite souvent, je l'ai cité, mais je le cite encore, il faut l'apprendre par cœur, un homme agit toujours à un moment donné, selon le désir du moment donné, à un moment donné. » C'est profond, ça. Le désir du moment donné. Vous savez ce désir que vous avez eu la dernière fois que vous avez fait un péché? La dernière fois que j'ai fait un péché, j'ai eu un désir que j'ai nourri, une convoitise. Êtes-vous dans le déni, vous, là, ou un matin? Là? Êtes-vous dans la fuite? J'aimerais ça qu'on réfléchisse sur ces trois aveuglements. Même, j'ai pas mis juste sanctification parce que j'avais peur de me perdre dans le mot. Il est tellement énorme, sanctification. Mettre un peu d'enfance progressive. Ça a-tu de l'allure? De gloire en gloire? On grandit. Et savez-vous, je vous dis un secret? Savez-vous, quand on grandit, on a des poussées de croissance spirituelle, c'est dans l'épreuve. Après une crise. Après des temps durs. Parce que ces épreuves-là testent notre foi. Ces épreuves-là nous pointent du doigt nos aveuglements. Et soit qu'on en sort gagnant et victorieux et grandi, ou soit qu'on scrappe nos vies chrétiennes. Est-ce que ça arrive dans la vie chrétienne de prendre une décision que si on aurait pris une décision contraire, on aurait scrappé nos vies? Oui. Regardez ici, il y a aussi ce qu'on appelle la loi du plus grand effort, qui est le contraire de la loi du moindre effort. Êtes-vous d'accord? Faites un petit oui, là. Bon. C'est rassurant. Moi, là, depuis le mois de mai, je m'entraîne 2 heures par jour. De 6 heures, je sors de chez moi entre 6h et 6h30 le matin. J'arrive au bureau vers 9h moins quart, moins 20. Puis je m'entraîne 2 heures de temps, presque. Je fais 60 minutes de tapis. Je fais des poids. Je ne vous dirai pas comment de livres j'ai perdu, parce que vous allez penser que je me pète des bretelles. Mais vous, vous êtes d'accord sur une affaire, par exemple? C'est de l'effort en peu pire. C'est de l'effort! Et si j'y mets pas l'effort, ça arrive pas! J'ai dit à moi-même, je disais à Diane cette semaine, je comprends pas ça. Je pensais qu'après quelques mois, j'étais pour aimer ça. J'aime pas ça! Pantoute! J'aime pas ça! J'ai dit, moi, prendre le goût. Tout le monde me dit, ah, Michel, mais tu commences ça, là. Tu pourras plus arrêter. Tu pourras plus arrêter, là. Ça va être comme une drogue. Je l'attends, la drogue. Je l'ai pas eu encore. La loi du plus grand effort. Il y a un principe. Plus tu mets d'effort, plus tu as de résultats. Moins tu mets d'efforts, moins tu as de résultats. C'est de même dans la vie de couple, c'est de même dans la vie chrétienne, c'est de même à la job, c'est de même à vacances. Plus tu mets d'efforts à planifier tes vacances correctement pour honorer Dieu, plus qu'ils sont belles. Et plus qu'on des dividendes. À quelque part, il faut savoir que la loi du moindre effort, et c'est ça qui est épeurant. Moi, mes parents, ils ont arrivé ici, j'avais 6 ans. J'ai passé ma vie assis dans l'Assemblée. J'ai vu l'Assemblée quand il y avait 60 personnes. J'ai vu l'Assemblée quand il y avait 120 personnes. J'ai vu l'Assemblée quand il y avait 250 personnes, etc. J'ai vu tout ça. À quelque part, est-ce que je peux vous dire qu'il y en avait une gang qui ont reparti? S'il faudrait que tous ceux qui sont venus ici soient encore ici, là, on aurait peut-être 3-4 étages pleins. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est pourvoit. C'est la volonté de Dieu qu'on soit comme ça ici, aujourd'hui. Dieu est en contrôle. Mais Dieu nous dit, faites tous vos efforts. Et ce qui est épeurant, une autre chose épeurante, deuxième chose épeurante, c'est qu'on s'assoit ici et on entend, c'est gratuit le salut. Quelqu'un payait à ta place. On a-tu raison de dire ça? Oui. Puis tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Excuse-moi si je t'en... Quelqu'un me dit, Michel, tu parles trop fort, tu m'agresses. Mais comprenez, là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Éphésiens 2:10 nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Puis le mot original pratique, c'est marcher. On marche dans les bonnes œuvres. C'est Dieu qui les prépare, pas la chair. Et c'est intéressant. Faites tous vos efforts. Le mot que là, on peut le traduire, là, effort, empressement, s'empresser, en hâte, avec zèle, sans paresse, vivement. C'est vraiment fort, là. C'est quand faites tous vos efforts. Pierre qui a souffert beaucoup, il a réalisé qu'il y avait de l'effort à mettre dans la vie chrétienne. Pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. Toute une différence. Si on lésine sur la lutte contre le péché, on est fini d'avance. L'ennemi ne fait pas de quartier. C'est intéressant pour joindre. Le mot qu'il y a là, en fin de compte, c'est un impératif. Aoris actif, impératif. C'est un impératif. Pas toutes les traductions qui l'ont corrigé. C'est un impératif. C'est même pas subjectif. C'est pas conditionnel. C'est un impératif. Faites tous vos efforts pour joindre. Et là, on a une super belle liste. Notre définition de tâche. Qu'est-ce qui nous décrit? J'ai envie de mettre notre portrait robot, là, mais c'est gênant un petit peu. Regardez, quelle belle liste, hein? Regarde. Wow! Hey! C'est-tu beau, ça? Puis je vous donne le défi, là, de penser que vous pouvez faire cette liste-là, ou vous être vraiment identifié à cette liste-là comme chrétien, puis vous n'avez rien à faire. Regardez bien. À votre foi, attendez un peu, j'ai une idée. À votre incrédulité, rajoutez le vice. Hein? À votre vice, l'ignorance. À votre ignorance, la perte de contrôle. À votre perte de contrôle, l'impatience. À votre impatience, l'impiété. À votre impiété, l'inimitié, puis à votre inimitié, la haine. Ça, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand je pensais au contraire de ça, je disais, wow, où sont mes efforts? Hein? Où sont mes efforts? Où sont mes efforts? Est-ce que ma vie reflète l'inverse? Ou est-ce que ma vie reflète ces choses-là? Et je dois vous dire avec honte que, oh non, j'ai du travail à faire. C'est pour ça qu'on appelle ça la sanctification progressive, la lutte contre le péché. C'est intéressant parce qu'il y a le résultat. Regardez le verset 8. « Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et elles vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le résultat. Et comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un rapport entre l'effort employé et le résultat obtenu. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire. Oisif, stérile, pour faire des choses. Avez-vous remarqué? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'attendrais que Pierre aurait dit, vous ne serez pas oisif ni stérile par rapport aux bonnes œuvres que vous allez faire. Vous pensez comme ça des fois? Des fois, je lis ça et je mets des affaires, ça n'a pas d'allure. C'est quoi la pensée, le contexte est roi? Hein? Il est en train de nous dire que lorsque on est vraiment imprégné de Christ, lorsque Jésus-Christ a transformé nos vies, lorsque l'Évangile travaille dans nos vies jour après jour, on va connaître Jésus-Christ dans le sens qu'on va lui ressembler parce qu'on le connaît. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas lui ressembler, n'est-ce pas? Il faut que ça passe de la tête au cœur aux gestes, au cœur aux paroles. Il y a un avertissement au verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, ne sont point, est quoi? Aveugle, il ne voit pas de loin, Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et je vous dis qu'il y a des commentaires là-dessus. Mais encore là, laissez pénétrer ça. Quelle chose, OK, les choses, les huit choses qu'on vient de voir, il y a un aveuglement quelque part. D'ailleurs, le mot myope vient de ce mot grec-là. Par rien qu'une fois dans le Nouveau Testament. L'autre aussi, oublie par rien qu'une fois. C'est intéressant. Pierre nous dit quoi, en fin de compte, dans tout ça? Est-ce que l'Évangile, vous voyez ça comme une porte d'entrée? Le Seigneur dit, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Oui, c'est une porte d'entrée. Mais c'est-tu juste une porte d'entrée? Est-ce que la puissante évangile du Seigneur Jésus-Christ n'est pas aussi une sanctification progressive, c'est-à-dire qu'on est transformé à la même image de Jésus-Christ, de gloire en gloire? Romains 8 nous rappelle qu'on est de ceux qui vont être complètement glorifié en Jésus-Christ, le jour qu'on va le voir, 1 Jean 3, 2, lorsqu'on le verra face à face, nous le connaîtrons comme qu'il nous a connus. Alors, fini la présence du péché en nous, on a un corps spirituel, 1 Corinthiens 15, à cause de la puissance de l'Évangile. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne voient plus clair, qui sont myopes par rapport à la purification de leurs anciens péchés, c'est qu'à quelque part, il y a l'oubli de la puissance de l'Évangile dans nos vies. N'oublions pas que l'Évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. Et sur cette croix, Christ a pris nos péchés, passés, présents, futurs. Et qui, lui qui était non coupable, a pris la place des coupables, la doctrine de substitution. Et cette substitution est là par rapport à sa mort à la croix et notre mort à la croix, par rapport à notre rachat comme esclave de Jésus-Christ, par rapport à notre vie que nous vivons, qui est celle de Christ. On est des petits Jésus qui vit la vie de Jésus sur la planète Terre. On appelle ça l'incarnation de Christ sur la Terre. Et nous marchons dans un monde de ténèbres. On oublie la puissance de la glorieuse Évangile dans nos vies. On coupe les cheveux en quatre avec toutes sortes de choses. Il y a même une conclusion, hein? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation de cette élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dans l'original, il n'y a pas l'impératif, il est tout subjonctif. Actif, subjonctif. Hey! Et ça, c'est un beau parallèle avec Galates. Je vais vous lire Galates. Galates 5, 16. Écoutez bien ceci. C'est un parallèle. Il dit en d'autres mots, mais il dit la même affaire que Pierre. Écoutez bien. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voyez-vous, Paul dit la même affaire. Tu peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas faire les désirs de l'esprit et les désirs de la chair dans la nanoseconde que vous vivez en même temps. Tu fais un ou tu fais l'autre. C'est tout le temps un petit peu? Il dit la même chose. Si on s'applique à ces choses, si on s'applique à ces huit vertus, si vous voulez, à ces huit traits de Jésus-Christ, et avoir le temps, on aurait pu faire un portrait de Jésus-Christ avec ces huit qualificatifs qu'on vient de voir. L'apôtre Pierre dit la même chose que Paul. Il dit, lorsque vous êtes en train de vous appliquer à faire tous vos efforts pour joindre ces 8 traits, vous n'êtes pas en train d'appliquer tous vos efforts à faire l'inverse que j'ai mentionné. Êtes-vous d'accord un petit peu avec ça? Faites un petit oui pour me rassurer. Merci. Comprenez? Ça a-tu de l'allure? Et c'est pour ça, mes amis, frères et sœurs, qu'en réfléchissant à ce texte-là matin, avec vous, j'aimerais bien ça, avoir une bonne semaine cette semaine. J'ai pas eu une bonne semaine cette semaine. Quelqu'un posait la question, puis non, j'ai eu une très difficile. On dirait que le diable, quand on travaille un texte, puis qu'on est imprégné d'un texte, puis qu'on va vérifier tous les mots, puis on dirait qu'on vit des choses qui nous ça nous fesse dedans. Vous savez, je vais vous partager un secret. Vous voulez entendre un secret? Êtes-vous des personnes qui veulent vraiment entendre un secret? C'est un secret, vous pouvez répéter, parce qu'il est enregistré. Il est un secret maintenant. Je ne l'ai pas dit encore. Il y a une expérience qui a été faite. Vous allez comprendre pourquoi qu'une semaine est dure et une semaine n'est pas dure. Trois groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'était des personnes très en contrôle, qu'on va appeler normales. Ça flotte. Le deuxième groupe, c'était des personnes qui vivaient une très grande tristesse. Très, très grande tristesse. Le troisième groupe, c'était un groupe qui était cliniquement maniaco-dépressif, ces pilules. Ils ont fait un test, le même test aux trois groupes. Et ensuite, ils ont demandé à ces gens-là d'évaluer un test comme tu avais une cible à atteindre, disons 15 balles à tirer une place, puis comment tu en as rentré dans le trou, comme aux poches, les aînés. Hein? Puis ils disaient, et là, les spécialistes interviewaient chaque groupe. Qui, vous pensez, était le plus près de la performance qu'ils ont fait? Lequel des trois groupes? Qui dit deux? Qui dit un? C'est embêtant, hein? C'est documenté, ça. C'est le deuxième groupe. Le premier groupe, qui était super en contrôle, a sous-estimé leur performance. Le groupe clinique a descendu leur performance. Et ceux qui vivaient une tristesse, une grande tristesse, ont vu plus clair que les deux groupes. C'est assez fort. Moi, je vis une grande tristesse. Puis ça me fait voir mon cœur. Vous comprenez? Quand tu passes une semaine à regarder ton propre cœur, tu ne peux pas avoir une bonne semaine. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la providence de Dieu. Tu as besoin des promesses de Dieu. Avez-vous déjà été triste? Avez-vous déjà été triste? Dans le counseling biblique, on nous dit, probablement, ça va être rare si vous rencontrez quelqu'un qui veut se suicider. Ça m'est arrivé trois fois, moi, dans 30 ans, d'avoir des cas suicides. Mais du monde triste, vous allez toujours en rencontrer, il y en a partout. Il y en a peut-être 90% qui savent qu'ils sont tristes, puis il y en a 10% qui ne savent pas. C'est pour cela que, frères et sœurs, il faut regarder au Seigneur, l'auteur de notre foi, de notre salut éternel, Faites tous vos efforts. Prions. Seigneur, par ton regard de flamme, rien n'est caché, rien n'est couvert. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? Tu es notre Dieu sauveur. Où irions-nous? Tu es notre maître. Et ensemble, comme Église de Dieu ce matin, on te demande de parler à nos cœurs. Produis cette tristesse. Cette tristesse qui mène à la repentance. Enlève notre tête dans le sable. Dirige nos yeux vers la croix. Car c'est la seule place où nous trouvons une paix, une joie et une raison de vivre. Seigneur Dieu, que ton esprit nous unisse et que tu fasses, Seigneur Jésus, de l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, une assemblée qui va sortir l'Évangile des quatre murs, en construisant des ponts séduisants avec un monde perdu. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Parce que les gens du dehors qui ne te connaissent pas nous regardent vivre, nous écoutent parler, nous voient agir. Et notre prière ce matin, c'est que nos paroles et nos gestes soit une gloire pour toi, Maître, notre Dieu sauveur. Bénis ton peuple à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.